il va derrière Dieu. D'accord? Oui.
Ok.
S'il est renvoyé de devant, c'est qu'il va derrière.
Sur le côté.
C'est où ça, devant Dieu?
C'est partout.
C'est Eretz Israël.
Ben
oui, ce qu'on dit de Yona. Va Yaakov Yona, livroar Tarshisha, mi lifne Hashem. D'accord? Yona s'est enfui de devant Dieu. En sortant des Eretz Israël. Mm-hmm. Donc il est parti. Dans l'autre hémisphère. D'accord? Parti en Amérique. Probablement. En tout cas, il y a un midrash comme ça. Il y a un midrash pas connu aussi. Le midrash de Shlomo HaMelech. Je vous amène aujourd'hui des midrashim peu connus. Il y a un midrash qui dit qu'un jour, le roi Salomon a demandé à Ashmedai, en français on dit Asmodé, le roi des démons. Il lui a dit, est-ce qu'il y a des hommes de l'autre côté de la terre? Aux antipodes. Il lui a dit, il y en a. Il lui a dit, est-ce que tu peux en amener un? Il dit, pas de problème, il a fait un abracadabra, et est arrivé un homme effrayant avec deux têtes et une lance dans la main. Et Shlomo lui demande, d'où est-ce que vous venez? Il dit, nous sommes les descendants de Caïn. Intéressant. Ça veut dire que Caïn représente ce qui est l'antipode, ce qui est l'autre côté. Et Eretz Israël représente le lieu de l'Ashgaha, et donc les Amériques, ça représente ce qui est en dehors de l'Ashgaha, le côté sombre. Le Zohar dit, il y a un endroit dans le monde où quand il fait jour chez nous, il fait nuit là-bas et inversement. Et ces endroits sont habités, dit le Zohar. Ça veut dire que il y a une manière d'être sur la terre qui est l'antipode de l'Ashgaha. D'ailleurs, c'est pour ça que le rabbi de Lubavitch expliquait qu'il était parti par Ashgaha en Amérique pour illuminer la partie ténébreuse. Il voyait ça comme ça. Bon. En tout cas, donc...
D'accord.
Oui. Enfin, peu importe ce que veut dire. Topographiquement, ce que ça veut dire. Mais enfin, c'est ça. N'oublie pas que tout ça, c'est très éthéré, tout ça. Vayetse Kaïn bilifne Hashem. Et Kaïn, sorti de devant Dieu, va Yeshev Beretz Nod. Il s'installa dans le pays du déplacement. Alors, je ne comprends plus rien. Soit il est déplacé, soit il s'établit. Soit il se déplace, soit il s'établit. D'abord, pourquoi est-ce qu'il doit se déplacer? Il dit, je vais devenir errant et déplacé sur la terre. Narvanad Baretz. Pourquoi? Parce que d'où lui vient la violence? De s'être attaché au sol. Donc on va le détacher du sol, on va amoindrir la violence de la nature. D'accord? Mais une fois qu'il a fait déjà un début de travail, il peut s'installer dans le pays du déplacement, c'est-à-dire qu'il va être, le na-vanad va être réduit. Maintenant, il va seulement nad, eretz nod, le pays du déplacement, mais il n'est plus errant. Il va s'installer. Maintenant, il va s'installer dans quoi? Est-ce qu'il va s'installer dans un champ, alors il va revenir à la violence, ou est-ce qu'il va s'installer dans un autre mode d'organisation de l'espace qui va lui permettre de surmonter la violence? On va découvrir qu'il y a un nouveau mode d'organisation de l'espace, c'est la ville. La ville, c'est l'organisation de l'espace à la mesure de l'homme. Et donc, il est abrité de la violence de la nature. On va voir ça tout de suite. Vayeda Kaïn et Ishto, et Kaïn connut sa femme. Vatahar, elle fut enceinte. Va-t-elle être Hanor? Elle a enfanté l'inauguration. C'est-à-dire qu'elle va inaugurer un nouveau type d'humanité. On va recommencer à zéro pour voir si ça peut marcher. Vaï Bonéaïr, il fut constructeur de ville. C'est-à-dire qu'il va faire la ville pour humaniser l'espace naturel. Et donc la ville est supposée dominer la violence. D'ailleurs, dans les villes, la ligne idéale, c'est la ligne droite. Il y a des rues, il y a des bâtiments, il y a des institutions. Dans la nature, c'est la ligne circulaire. Donc, Vaïboneir, il construit une ville. Vaïkra Shemaïr, il a nommé le nom de la ville. Keshem Beno Hanor, comme le nom de son fils, Hanor. C'est-à-dire qu'il a donné à la ville le nom de l'homme. C'est le début de la chute. Parce que le problème est de savoir, qu'est-ce qui est important? C'est l'habitant ou le cadre? C'est l'habitant. Si je donne le nom de l'homme au cadre, c'est que c'est le cadre qui est devenu le sujet. Et donc, j'oublie qui je suis, je me prends pour un fonctionnaire. Je remplis la fonction qui m'est assignée. Par exemple, quand je reçois des... Au Machon Meir, ça m'est arrivé, c'est là où j'enseigne à Jérusalem, de recevoir des nouveaux élèves. Alors, quand quelqu'un vient, je lui dis, la première question que je pose, c'est « Qui es-tu ?» Et par la réponse, j'apprends énormément de choses. S'il me dit « Je suis Yossi » ou « Albert », j'apprends beaucoup de choses sur lui. Je sais qu'il est Yossi ou Albert. Parfois, je reçois une réponse dramatique qui est « Je suis un nouvel élève ». C'est très grave. Parce que ça veut dire qu'il ne veut pas parler de lui, il veut parler de la fonction qu'il remplit. Et en général, on se révèle derrière ça un problème de personnalité, d'affirmation de sa personnalité. Et très rapidement, on y arrive. D'accord ? Et c'est ça le problème. Par exemple, vous allez voir quelqu'un, « Bonjour, je suis le facteur. » Je ne suis pas le facteur, je suis Georges. D'accord ? Il y a ici un problème. Donc, il va construire une ville, il va donner à la ville le nom de l'homme. Il y a un temps, on va voir dans la Torah plus loin, la ville a donné son nom à l'homme. C'est la ville de Shrem. La ville de Shrem s'appelait Shrem, et l'habitant a pris le nom de la ville. Donc il y a une restitution de l'humanité qui a permis à Yaakov de penser que c'était le chidour idéal pour sa fille. Mais ça, quand on y arrivera. Remarquez ici une petite allusion. Vaikra Shemaïr, il a nommé le nom de la ville Keshem. C'est la ville de Shrem. Vaïvaled, la Hanor, est Irad, et fut enfanté à Hanor. C'est presque à son insu que lui fut enfanté, est Irad, la ville de la chute. Irad, c'est écrit en toutes lettres. Et la ville va effacer le nom de Dieu. Irad, Yalad, et Mehuyael. On efface le divin. Umhiyael, Yalad, et Mtushael. Et donc, l'effacement de Dieu va déraciner le divin. Umtushael, Yalad, et la mère. Et Mtushael a engendré l'abaissement. N'est-ce pas ? Oui, Mar. Mar, ça veut dire ce qui est en bas. Namor. En hébreu, comment est-ce qu'on dit bas ? Namor. Et les Israéliens pensent qu'il faut dire Namour. D'accord ? C'est une erreur, il faut dire Namor. Enfin, peu importe. De même que humide, on ne dit pas Ratouv, on dit Ratov. Mais c'est pas grave. D'accord ? Donc, la mer, ça veut dire l'abaissement. C'est-à-dire, il y a une chute. Et cette chute va créer une civilisation dans laquelle le sentiment l'emporte en importance sur l'intellect. Vous savez que chez les chassidim, on explique que le mot Meler, le roi, ce sont les initiales de Moar, Lev, Kaved. Le cerveau, le cœur et le foie. C'est-à-dire le lieu de l'intelligence, Moar, le lieu des sentiments, Lev, le cœur, et le lieu des pulsions naturelles, Kaved, le foie. Et quand on met l'émer, c'est que c'est le sentiment qui est plus important que l'intelligence. Donc c'est ça qui arrive, et ce qui va se passer, il va y avoir dans cette civilisation une diffraction entre la morale et l'esthétique. Si vous voulez, en beau terme, on dit entre l'éthique et l'esthétique. La preuve, Vaïkarlo Lémer, c'était Nashim, et Lémer prit deux femmes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux femmes ? Jusqu'à présent, tout marchait très bien avec une femme. Mais il a pris deux femmes. Pourquoi ? Parce qu'une femme, ça sert à quoi ? Une femme, ça sert à être belle, et ça sert à avoir des enfants. Or, belle et les enfants, ce sont deux fonctions souvent opposées. Soit belle, soit des enfants. Alors, c'est une situation qui n'est pas capable d'accepter l'unité de l'extériorité et de la vie intérieure. Et donc, il y aura une femme pour la beauté et une femme pour les enfants. Shem ha'achat Ada. La première sert à être enceinte. Ada, en araméen, ça veut dire être enceinte. Veshem ha'achat Hachénit, Tzila. Et le nom de la deuxième, c'est elle est dans l'ombre. C'est ça ? Ou bien elle fait des. Ou elle teinte. T-I-N-T-E. Et elle va servir donc à être belle. Et Rashi amène que ça veut dire que dans cette génération-là, une des deux femmes prenait un contraceptif pour ne pas avoir d'enfants, pour rester belle, tandis que l'autre, elle avait des enfants. Et c'est une société qui ne sait plus faire l'unité des valeurs. Va-t-elle aider Adam ? Et donc Adam a enfanté, c'est normal. Et tandis que, si vous regardez au verset Kafbet, Vetzila Gami Yalda, et Tzila aussi a enfanté. Ça, on ne s'y attendait pas. Elle n'aurait pas dû enfanter, il y a eu un accident. Le contraceptif n'a pas marché. D'accord ? Le stérilisant. Bon, je reviens donc au verset Kaf. Va-t-elle aider ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ?
Il y a une
différence
entre Mechuyel et
Mechiel. Oui, c'est vrai. Au début, on dit Mechuyel, après Mechiel. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas tout. Il faut admettre, c'est triste, que je ne sais pas tout. Va-t-elle aider Adam ? Mais c'est très humain. Va-t-elle aider Adam et Yaval ? Adam a enfanté Evel. Ah oui, Yaval, c'est la même racine que Evel.
Mais c'est au passé.
C'est peut-être un futur.
Un futur.
Oui. En allemand, Yavol. Ouaya, il est devenu Avi Yoshev Oel Umikne, le maître ou le père de ceux qui résident dans des tentes et qui ont des troupeaux. D'où vient ce métier ? De Evel. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Evel est hébergé, tandis que Yaval a des troupeaux. Et comment on dit un troupeau ici ? Mikne, une acquisition. C'est-à-dire, il va donner une coloration caïnisante au métier de Evel. Il va donc être l'inventeur de l'économie. Il va rentabiliser, ce qui a été un peu poétique chez le pasteur Evel, ça va devenir systématique. Mais il y a une tentative, en tout cas, d'intérioriser les valeurs de Evel. Mais elles prennent une coloration caïne. Veshem Achiv est le nom de son frère. Yuval, à nouveau, la même chose. Et c'est aussi des valeurs abliennes, abéliennes. Houaya, il est devenu, Avi, le père ou le maître. Koltofes Kinor Veugav, de tous ceux qui prennent en main le luth et le psaltérion. Le luth et le psaltérion. Le psaltérion, ça ne veut absolument rien dire. C'est un mot qui est employé dans les traductions de la Bible en français. Je ne sais pas si quelqu'un sait ce que c'est qu'un psaltérion. Mais en tout cas, savoir. Je ne sais pas s'il y avait des pianos à l'époque. Vous voyez, le psaltérion. C'est comme on dit le propriatoire et tous ces machins. Bon. En tout cas, donc, qu'est-ce qu'il fait, Yuval ? Il fait de la musique, il a inventé l'art. Mais qui était le premier à se servir d'un instrument de musique ? C'était Evel, évidemment. On ne peut pas être berger si on n'a pas une flûte. Donc, ils vont prendre une intuition qui existait chez Evel, ils vont lui donner une forme.
Mais ils ont la même racine. Chacun de ces enfants ont les mêmes racines, les mêmes noms.
Oui, bien sûr.
Et donc, ça paraît évident d'avoir quelque part un même élément
que Evel. Evel, évidemment. Ils vont prendre chacun une partie de ce que faisait Evel. Ils vont essayer de le rentabiliser, de le systématiser.
Parce qu'en quoi c'est choquant, ça raconte.
C'est pas choquant, non, c'est très bien.
Ils essayent de récupérer,
ce qui est très bien là-dedans.
Rétablir ce qui n'existe pas.
Absolument, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est ce qui leur manque. Et ça, on va voir par la suite. D'accord ?
Mais pourquoi donner ce nom avec la racine de Evel ?
Parce qu'ils sentent qu'un monde basé uniquement sur le caïnisme ne peut pas tenir. Il faut une intuition que, oui, il manque quelque chose. D'ailleurs, il y a une culpabilité. On sait que l'ancêtre a assassiné. Assassiner quelque chose qu'il faut remplacer.
Une sorte de tikkun, peut-être.
Oui, bien sûr, il y a une tentative de tikkun, il n'y a pas de problème, je ne suis pas contre. Est-ce que ça va marcher ou pas ? On va en discuter. D'accord ? Oui. Mais ils vont le faire à leur manière. Ils vont systématiser. Ils vont faire, disons, oui, il faut de l'art. Bon, d'accord. Eh bien, on va faire un département artistique dans le ministère. D'accord ? On va nommer un fonctionnaire pour ça. D'accord ? Il y a une perte du génie. Vetzila Gami, et Tzila aussi, elle a enfanté, Yalda. Ça, elle s'y attendait pas. Donc l'enfant qui va naître est une frustration terrible, le sentiment de l'échec. Yalda est, elle a enfanté, et Tuvalcaïn. Alors ça, c'est un drôle de nom.
L'association des deux, non ?
L'association des deux, bien sûr. Oui, d'où le nom de Vulcain. Oui, le premier le dieu des forgerons, le dieu forgeron. Vulcain, Tuvalcaïn. D'accord ? Oui. C'est des origines, les noms des dieux chez les... Oui. Ben voilà, on le voit ici. Lotesh, il est aiguiseur. Kolhoresh nechoshet uvarzel. De tous ceux qui produisent du cuivre et du fer. C'est-à-dire, il est l'inventeur de la technologie. Il est capable de créer des armes. Quel est le premier à avoir utilisé quelque chose qui coupe ? Mais non, c'était Evel, évidemment. Quand on a des troupeaux, comment vous faites la tonte ? Il faut bien les tondre. Donc il y a des ciseaux, quelque chose de ce genre. Donc ils vont reprendre une idée de Evel, qu'ils vont caïniser à bloc, ils vont en faire des armes. Va'achot Tuvalcaïn, la sœur de Tuvalcaïn, Naama, donnait des plaisirs.
Oui. Naama, il était agréable.
Alors, elle s'occupe du plaisir. Alors c'est une société très intéressante dans laquelle il y a une prédominance de du sentiment chez les mères. On s'occupe finalement d'économie, d'art, de technologie et de loisirs. Ça s'appelle une société humaine.
Quand ils disent OL, OL c'est l'étude.
Oui. OL ça veut dire aussi l'étude.
Le chef OL.
Oui, bien sûr. Ils réfléchissent là. D'accord, ils réfléchissent à comment faire, à faire de l'argent, mikné. Oui. Et donc, c'est une société extrêmement établie.
Il n'y a aucune quête spirituelle, c'est ça ?
Peut-être, oui, effectivement, il manque quelque chose.
Il y a une quête, donc il y a une...
Il voudrait peut-être.
Non, un remplacement, en fait.
Oui. Mmh. Ouais. Et il y a ici tout un problème, c'est que l'idéal humain de la société de Caïn, c'est quoi ? Ça se résume en un mot. Le riche. Achir. La richesse, c'est-à-dire l'ensemble des acquisitions, c'est-à-dire le mot Caïn, un acquis, un bien. Tout ça, c'est ça l'idéal humain. C'est-à-dire que la société de Caïn porte à être finalement réussi dans la vie, donc riche. Est-ce que devenir riche est difficile ? Non, ce n'est pas difficile d'être riche, si c'est ça qu'on a pour but dans la vie, et si on est encouragé par la société. Et à partir du moment où j'ai une valeur que je dois défendre, que je dois acquérir, je suis capable de l'acquérir. Ce n'est pas difficile de devenir riche. Maintenant, on va voir, il y a une autre branche qu'on a laissée tomber de côté, c'est celle de Chet. Regardez une petite seconde, toujours dans le chapitre à nous, dans notre chapitre, au verset 4. Vaïda Adam Odetishto. Adam connut encore une fois sa femme. Vatelet Ben, elle enfanta un fils. Vatikra et Shemo Chet. Elle lui donna pour rôle d'être un fondement. N'est-ce pas? Tashtit, une infrastructure. Kishak Elohim Zerahacher. Car Dieu a fondé chez moi une autre descendance. Tachat Hevel, en remplacement de Hevel. Kiarago Kaïn, car Kaïn l'a tué. Là, j'ai rien compris. Si Chet, c'est un nouveau Hevel, et que Hevel s'est fait tuer par Caïn, donc Chet se fera tuer par Caïn aussi. Alors à quoi ça sert de faire un nouveau Hevel si Hevel se fait tuer ? Ça veut dire qu'en fait, elle a fait un Hevel amélioré. Prototype, Hevel de l'an 2000, c'est un Hevel qui, lui, ne se fera pas tuer par Caïn. Il a pris la leçon. Donc il va avoir le discours de Hevel, mais il aura les mains de Caïn. C'est l'origine de l'être d'Israël. Ce n'est pas Yaakov, c'est Israël. Ça commence déjà chez Chet. Mais de quoi il s'occupe ce Chet en question ? Regardez dans le chapitre He, au verset... au verset Gimel. Vayehi Adam, 30 Omeat Shana, Adam vécut 130 ans, Vayolet bin Muto Ketsalmo, il engendra à sa ressemblance, à son image, Vayikra et Shemo Shet, il lui donna pour nom Shet. Aha. Il est donc à la ressemblance et à l'image d'Adam. Et Adam, il était à la ressemblance, à l'image de Dieu. D'accord ? Donc, Shet est à la ressemblance et à l'image de Dieu. Il est dans Tselem Elohim. Ça veut dire que si Adam Arishon était porté aux choses divines, à la connaissance métaphysique, à la sagesse, eh bien, il en est de même chez Shet. Donc, la préoccupation de Shet est très différente de la préoccupation de Caïn. Caïn s'occupe de civiliser le monde, il va meubler le monde, tandis que Shet, il va s'occuper de questions spirituelles. N'est-ce pas ? Shet a un fils qui s'appelle Enosh. Regardez un peu en arrière, au chapitre d'Alef, verset Kafbav. Où les Shet Gamou Yulad Ben, Shet aussi a eu un enfant, Vaikra et Shemo Enosh, il l'appela l'humain. Lui aussi veut fonder une nouvelle humanité. Azuchal, Likro Beshem Hashem, c'est alors qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire que Enosh est l'inventeur de la religion. Il est celui qui a la nostalgie du divin. Et donc, il va inventer le culte. C'est pour ça que les Chachamim ont dit que Enosh était le premier idolâtre. C'est un païen. Parce que commencer à invoquer le nom de Dieu, c'est commencer sans finir. Donc, c'est une vision partielle du divin, donc c'est un idolâtre. Mais malgré tout, c'est quand même un être religieux. Il est intéressé par le spirituel. Qu'est-ce qui se passe chez Enosh ? Verset tête. Regardez dans chapitre He, verset tête. Vayehi Enosh, Tishaim Shana. Enosh vécut 90 ans. Vayoled et Kenan, il engendra le petit Caïn.
Kenan,
oui. Kanishu. Un petit Caïn. Kenan. C'est-à-dire qu'on sent dans cette famille un manque de virilité, on sent un manque de puissance caïnite, et donc on va essayer d'adopter le caïnisme en l'amoindrissant. Un petit Caïn.
Oui, mais c'est un retour des choses, parce que dans la famille de Caïn, ils passent leur temps à chercher...
À devenir Evel, et dans la famille des remplaçants de Evel, on va essayer d'introduire un peu Caïn. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a un problème de complémentarité entre les deux lignées. D'accord ? Et après, Kenan a lui aussi un fils, au verset Yudbet. Vayehi Kenan, Shivim Shana, Kenan vécu 70 ans. Vayoled et Maalalel, et il a engendré le juif. Maalalel, celui qui loue l'Éternel. D'accord ? C'est-à-dire, il y a. C'est exactement le contraire de Mechouyael, de celui qui efface le nom de Dieu. Là, il va louanger le Créateur. Le Mahalalel en question, regardez au verset Tetva, Vayehi Mahalalel Hameshani Veshishim Shana, Vayoled et Yared. Il vécut 65 ans et il engendra le révélateur. Yared, c'est celui qui invite à la révélation. Par exemple, vous connaissez dans la Torah l'expression Vayered Hashem, et Dieu descendit, c'est à chaque fois qu'il se manifeste. Et c'est le contraire de Irad, la ville de la descente. Lui, il invite quelqu'un à descendre.
Irad, c'était Imaïn.
Oui, Irad, et là, c'est sans le Aïn. Oui, c'est Yared. Yared a un fils aussi, au verset Yutret. Vayichi Yared, Shtaim, Vishim, Shana, Umat, Shana. Yared vécu 162 ans. Vayoled et Hanor. Il engendra lui aussi son inaugurateur. Or, le Hanor en question n'est pas n'importe qui. C'est un être super spirituel. Regardez au verset Kafbet. Vaïtalech Hanor et Elohim. Et Hanor marcha avec, chemina avec l'Éternel. D'accord ? Ou bien au verset Kavdalet, Vaïtalech Hanor et Elohim, venenu. Hanor chemina avec Elohim, il n'est plus. Kilakar oto Elohim. Car Elohim l'a pris. On ne dit même pas qu'il est mort. C'est pour ça que vous avez des Midrashim qui parlent de lui un peu comme un personnage ressemblant à Eliyahu Hanavi, qui quitte le monde. En tout cas, c'est un personnage mystique. Et ce personnage mystique, qui vit 365 ans exactement, c'est le nombre des jours de la vie, donc c'est un être parfait, il fait un cercle parfait. Il a un fils lui aussi. Et le fils de Yered n'est pas n'importe qui non plus. Au verset Kafalev, Vayechi Chanor, Chamesh Vishim Shana, Vayoled et Metushalach. Il engendre Metushalach, Methusalem, on dit en français. C'est-à-dire, c'est un tzadik qui n'est pas n'importe qui. Ça, c'est un tzadik énorme. Parce que tant que Metushalach était vivant, le déluge ne pouvait pas arriver. Et alors que Noach est assez tzadik pour mériter d'être sauvé du déluge.
Il n'est pas sauvé de l'humanité.
Oui, mais Metushalach, tant qu'il est là, le déluge ne peut pas arriver. C'est donc un géant. C'est, il soutient le monde. C'est un atlas, si vous voulez.
Il veut dire quoi son nom, Metushalach?
Metushalach, ça veut dire l'homme éternel. Metou, ça veut dire un homme. Mais ça veut dire également une mort d'éternité. Parce que Metushael, on a vu Metushael, celui qui dit des racines, ça veut dire également une mort qui engendre le questionnement. Metou, Sheol. Mais c'est la mort qui va vers l'enfer. Tandis que ça, c'est la mort qui va vers l'éternité. Donc il y a deux manières de mourir.
Lach.
Shelach. Shelach, c'est-à-dire renvoyer. D'accord. Et puis, Metushalach en question, il a un fils qui s'appelle Lémer. Au verset. Oui, un nouveau Lémer, mais alors c'était un Lémer tout à fait différent. Au verset qu'après, Vaïchi Metushalach, Shiva Shenim, Mushmunim Shana, Machana, Vaïchi Lémer. Lémer en question, c'est quelqu'un qui met le sentiment au-dessus de l'intellect, mais ce sont un sentiment d'intuition spirituelle. Et ça arrive parfois, chez les Chassidim, on voit ça. Et ce Lémer en question est préoccupé justement de la réparation de l'humanité. Parce que lorsqu'il va enfanter un fils qui s'appelle Noach, au verset Kaftet, il est dit « Vaïkra et Shemo Noach les morts », il appela son nom Noach en disant « Zé, celui-là, Yenachamenu, nous consolera. Mima asenu mitzvon yadenu mina adama sherira Hashem, de notre labeur et de l'affliction de nos mains, de la terre que Dieu a maudit. » Ce qui veut dire que lorsque Noach est né, disent les Chachamim, on a inventé la charrue. La charrue qui permet de dominer la malédiction de la terre. Mais celui qui travaille la terre, c'est qui? C'est Caïn. Donc on a repris le métier de Caïn dans la famille de Hevel, dans la famille de Chet, remplaçant de Hevel, pour dominer la malédiction. Donc on voit que les deux familles essayent de se compléter l'une l'autre. Mais qu'est-ce que ça va donner? Ça, nous le verrons la prochaine fois. Inch'Allah.